RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mot l'Indonésie, l'orbite suivante, magazine culturel et apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le Forum des entreprises responsables s'étonne à nouveau. Selon le vice-président indonésien, la guerre commerciale américaine et chinoise diminue le commerce extérieur. En tant que plus grand expéditeur de congrégations de Hajj et Umrah dans le monde, l'Indonésie doit avoir des hôtels en Arabie Saoudite. Le ministre indonésien des Affaires étrangères a assisté au débat du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. L'offre de coopération dans l'industrie pétrolière et gazière et l'éducation de Sibérie. L'Indonésie va transformer les déchets en énergie. Professeur d'Indonésie a remporté $200,000 du roi Salman. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. Le 5e Forum des entreprises responsables sur l'alimentation et l'agriculture s'est tenu du 27 au 28 mars 2018 à Jakarta. Le forum est organisé par le Conseil indonésien des entreprises pour le développement durable, la Chambre de commerce indonésienne et Peace Agro. Le président du Conseil indonésien des entreprises pour le développement durable, ou IBCSD, Sinta Kamdani, a déclaré que ce forum permet à l'Indonésie d'atteindre l'objectif fixé dans l'objectif de développement durable, notamment dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, à savoir l'éradication de la faim et l'agriculture durable. Les délégués d'hommes d'affaires nationaux et étrangers ont parlé de l'alimentation et de l'agriculture durable, non seulement du point de vue économique, mais aussi des aspects sociaux et environnementaux.
Pertama itu bagaimana berbagai pemangku kepentingan itu bisa.
Premièrement, les différents partis prenants peuvent améliorer leur coopération dans le cadre de ODD, non seulement pour l'alimentation et l'agriculture, mais aussi pour les ODD. Et deuxièmement, comment pouvons-nous communiquer l'importance de la confiance, de la traçabilité et la transparence dans laquelle nous menons une entreprise durable. Sinta Sukamdani souhaite que ce forum puisse donner l'attention au rôle des femmes dans l'agriculture. En outre, le secteur des entreprises devrait améliorer davantage un mode de vie sain. Le forum sera continué avec le groupe de travail qui est constamment surveillé. Les grands entrepreneurs peuvent aider les petites et micro-entrepreneurs à pratiquer des activités sociales et environnementales. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a déclaré que les guerres commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine diminueraient le commerce extérieur à cause des tarifs des droits d'importation et la production. Le vice-président Yusuf Kalla a affirmé aux journalistes au bureau du vice-président à Jakarta que l'impact de la guerre commerciale avait réduit la demande d'acier et d'aluminium dans le commerce mondial. Toutes les guerres commerciales, notamment avec les grands pays, l'Amérique avec la Chine, la première économie mondiale et la plus grande économie du monde, ont un large impact selon deux types tels que d'acier et aluminium. C'est pourquoi il y a l'OMC pour éviter la guerre commerciale, mais si cela se produit, on se répond habituellement c'est la guerre et cela est dangereux pour le commerce mondial. Selon le vice-président Yusuf Kalla, l'Indonésie pourrait être indirectement affectée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les exportations indonésiennes d'acier et d'aluminium vers la Chine diminueront à cause de la diminution des demandes américaines vers la production chinoise. Ainsi, l'Indonésie devait anticiper cet impact qui pourrait réduire les exportations indonésiennes vers un certain nombre d'autres pays. L'Indonésie est devenue le plus grand expéditeur de Hajj et Umrah dans le monde en Arabie Saoudite. Par conséquent, pour soutenir la présence de congrégations de Hajj et Umrah dans les villes telles que La Mecque et Médine, l'Indonésie devrait posséder des hôtels et il a été déclaré par un membre de Commission 8 du Parlement, Ahmad Mustaqim, aux médias au Parlement Jakarta mardi. Selon lui, comme le plus grand pays qui a la plus grande population musulmane, et à la plus grande quota de Hajj dans le monde, jusqu'à présent, l'Indonésie doit montrer la construction nationale et la fierté nationale. L'un d'entre eux que nous pouvons capables d'acheter des actifs d'hôtel, et en effet, il y a déjà l'offre et est en train d'être étudié par nous. Ahmad Mustaqim a également espéré que la priorité de l'hôtel en Arabie Saoudite puisse être réalisée, de sorte que l'Agence de la gestion financière de Hajj ou BPKH puisse organiser au moins 2000 jusqu'à 3000 chambres d'hôtel. Il a déclaré que l'hôtel peut être géré par BPKH qui donne des revenus pour subventionner le coût des candidats du Hajj d'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a assisté au débat public de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'action collective pour améliorer les opérations de maintien de la paix de l'ONU à New York, aux États-Unis. C'est ce qu'a déclaré la ministre Retno Marsudi sur Twitter à Jakarta mardi. À l'initiative des Pays-Bas, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu un débat public aujourd'hui, mercredi 28 mars. Le débat public du Conseil de sécurité des Nations Unies discute les moyens de réformer les opérations de maintien de la paix pour assurer que chaque opération de l'ONU peut mieux répondre aux défis sur le terrain. Avant d'arriver à New York, le ministre a rencontré le secrétaire américain de la Défense, James Mattis, à Pentagon, Washington DC, lundi, pour discuter des efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Lors de la réunion, Mattis a salué le leadership de l'Indonésie dans cette région. La Sibérie offre la coopération à l'Indonésie ayant de l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie nucléaire, la transformation du bois, le commerce, l'amélioration de la qualité des ressources humaines à la technologie de l'information et de télécommunications. L'ambassadeur d'Indonésie en Russie et Biélorussie, Wahid Supriyadi, a salué l'offre du gouverneur de la région de Tomsk, Sergei Swatchikin, lors de sa réunion à Tomsk en Russie, comme l'a affirmé le haut fonctionnaire de la fonction de l'information et socioculturel de l'ambassade d'Indonésie à Moscou, Njai Diana, mardi. Selon Swaskin, la coopération intercommunale est importante à faire, notamment dans le domaine de l'éducation, parce que Tomsk a plusieurs grandes universités en Russie, y compris l'Université Polytechnique de Tomsk. Supriadi a déclaré que des efforts étaient déployés pour développer davantage la coopération. L'intensification de la coopération dans divers secteurs est très importante, en ligne avec le développement des relations entre l'Indonésie et la Russie, qui se dirige actuellement vers un partenariat stratégique. Il a invité le gouverneur et les hommes d'affaires à participer au 3e Festival de l'Indonésie à Moscou du 2 au 5 août, assisté à l'exposition commerciale de l'Indonésie à Jakarta du 24 au 28 octobre. Le gouvernement indonésien, à travers le ministère de l'Environnement et des Forêts, établira une coopération avec la Belgique dans le but de transformer les déchets en énergie. Le ministère de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya, a répondu à l'invitation du ministre belge de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement, Marie-Christine Mergam, dimanche soir, et c'était un communiqué de presse du ministère de l'Environnement et des Forêts à Jakarta lundi. Accompagné par la ministre Mergen et l'ambassadeur indonésien à Bruxelles, Yuri Tamrin, Madame Siti Nurbaya a visité l'unité commerciale de traitement des ordures Dufour à Tournai à Bruxelles. Par ailleurs, elle a également visité le domaine de Gros, une ferme de troisième génération d'environ 120 hectares. Dufour est la société de la familiale qui a été établie au début des années 1920 et 1998 a établi un centre de recyclage en appliquant le principe de l'économie circulaire. Le vice-doyen de l'Institut international de recherche et de formation halal et le secrétaire du conseil professeur à l'Université islamique internationale de la Malaisie en provenance de l'Indonésie, professeur Irwandin Jaswir, a reçu le prix de 200 000 dollars américains du roi d'Arabie Saoudite Salman. Comme cité par Antara mardi, le roi Salman a remis le prix au gagnant de King Faisal International Prize 2018 à Riyadh lundi soir. Irwandi a reçu le prix pour la catégorie de service contre l'islam, cinq chercheurs et scientifiques de l'Indonésie, la Jordanie, la Tunisie, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont reçu le prix pour les cinq catégories principales, à savoir le service à l'islam, études islamiques, langue et littérature arabe, la médecine et la science. Professeur Irwandi Jaswir a collaboré avec d'autres scientifiques pour développer de nouvelles méthodes pour détecter rapidement les substances dans un aliment non kasher, les produits cosmétiques et d'autres biens de consommation utilisés par les musulmans. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'expulsion des diplomates russes ». La crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Russie continue. Après il y a quelque temps, le Royaume-Uni a expulsé un diplomate russe qui a été suivi par les États-Unis. Maintenant, 16 États membres de l'Union européenne font la même chose. Ce nombre est ensuite ajouté quelques pays qui ont des liens étroits avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, comme le Canada, la Norvège, l'Albanie et l'Ukraine. Plus tard, l'Australie, mardi 27 mars, a également fait la même chose. Les diplomates qui ont dû quitter son poste atteignent 130 personnes dans 21 pays. Dans un communiqué publié lundi 26 mars 2018, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé le rapatriement de ses diplomates et l'a considéré comme un acte de provocation. Le fonctionnaire russe a dit que les alliés occidentaux obéissent seulement aux Britanniques. En fait, la Grande-Bretagne a considéré à ignorer les dispositions concernant la présomption d'innocence et ne laisse aucune place à la participation de la Russie à enquêter sur le problème. Le parti furieux dans le pays poussant le gouvernement russe à procéder à l'expulsion des diplomates américains à Moscou. La cause initiale de ce problème était la tentative de meurtre de l'ancien agent double Sergei Skripal et sa fille Yulia. Les résultats de l'enquête ont montré l'utilisation de produits chimiques Novichok qui étaient autrefois produits en Russie. Avec cette indication, la Grande-Bretagne considère la Russie derrière la tentative de meurtre. Bien sûr, l'expulsion des diplomates n'est pas un bon signe pour la solution. Auparavant, seulement le problème bilatéral entre la Grande-Bretagne et la Russie. Maintenant, le problème s'aggrave parce que plus de 20 pays le font. La question, est-il vrai que ces diplomates qui sont exposés sont en train d'accomplir des tâches d'espionnage? Les diplomates fournissent toujours des informations sur l'état de placement périodiquement. Si la transmission de l'information est considérée comme une action d'espionnage, bien sûr, toutes les nations doivent exposer les représentants des membres étrangers à leur endroit respectif. On espère que cet acte d'expulsion des diplomates n'est pas répandu. La Grande-Bretagne et ses alliés doivent corriger leurs actions et annoncer les résultats de l'enquête sur la tentative de meurtre. Au contraire, la Russie, si les accusations occidentales sont vraies, doit nettoyer son appareil diplomatique de l'espionnage dans d'autres pays. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le groupe pro-monarchie de l'Espagne saisit le pouvoir le 28 mars 1939. En Espagne, le 28 mars 1939 est devenu un jour important pour les nationalistes espagnols sous le général Francisco Franco, qui a vaincu les groupes républicains qui avaient gouverné le pays plusieurs années. La victoire des groupes nationalistes est marquée par la chute de Madrid, capitale de l'Espagne. La victoire du général Franco a pris fin à la guerre civile qui dure depuis 3 ans. En même temps, a commencé une longue période de dictature dans le pays. L'autre information est sur l'équipe de médecins de l'hôpital Dr. Sutomo Surabaya a fait la première opération de greffe de visage en Indonésie, le 28 mars 2006. Cette opération est faite à une patiente qui s'appelle Siti Nur Jazila qui a subi de graves blessures au visage. L'équipe de médecins dirigée par Dr. Mohamed Shaifuddin Nur, l'opération est effectuée pendant 42 heures. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, le lancement du Soyuz TMA-08M vers la Station Spatiale Internationale, le 28 mars 2013. Le lancement du Soyuz TMA-08M vers la Station Spatiale Internationale, le 28 mars 2013. Elle transporte deux cosmonautes russes et un astronaute américain. Soyuz TMA-08M est une mission de vol spatial utilisant le fusée spatial russe Soyuz. La fusée Soyuz FG qui transporte Soyuz TMA-08M a été lancée du cosmodrome de Baïkonour, le Kazakhstan. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « Les normes internationales sont appliquées à la zone touristique télé, le Géoparc Toba ». La zone touristique télé, le Géoparc Caldera Toba, dans le district de Harian, la résidence de Samosir en province de Sumatra du Nord, est connue comme le meilleur endroit pour profiter du paysage du lac Toba. Le Géoparc de Caldera Toba est accepté par l'Agence des Nations Unies pour l'éducation et la culture, UNESCO, comme l'un des géoparcs mondiaux. Pour répondre aux critères d'évaluation de Global Géoparc Network UNESCO, le gouvernement indonésien tente d'améliorer les installations pour qu'elles soient des normes internationales. Le ministère des Travaux publics et du logement populaire, à travers l'Agence de recherche et de développement, construit une salle de repos à deux étages avec les normes internationales et respectueux de l'environnement dans cet emplacement. Cela est transmis par le ministre des Affaires publiques et du logement populaire, Basuki Hadi Mulyono, dans sa déclaration écrite dimanche. Le ministre Basuki a déclaré que le tourisme télé fait partie de la zone stratégique touristique nationale du lac Toba. Selon lui, le développement des infrastructures dans chaque zone stratégique du tourisme national doit être planifié de manière intégrée. Le développement n'est pas seulement concentré sur un côté, mais sur tous les aspects allant de l'aménagement des zones, des routes à la fourniture de brut et de potable, à la gestion des déchets, à l'assainissement et à l'amélioration des logements de la population. L'un des aspects importants qui devient la considération des touristes est la disponibilité des toilettes propres sur les sites touristiques. Dans le lieu de repos du tourisme télé, des toilettes qui sont construites par le ministère des Travaux publics et du logement populaire a été équipé d'une usine de traitement de l'eau et de traitement des eaux usées, donc cette zone touristique est écologique. Le traitement de l'eau brute à l'eau propre utilise une technologie d'aérateur à plateau multiple, à savoir, pour réduire la teneur en fer dissous dans l'eau, le traitement de l'eau prête à boire à travers la technologie d'osmose inverse, à savoir, filtre les matériaux polluants nocifs. Pour le traitement des eaux usées, on utilise la technologie biofil. Les eaux usées sont traitées en utilisant un système anaérobie, à savoir casser la matière organique par des bactéries dans un état sans oxygène, dans un réservoir d'une capacité de 5 ml dont les résultats sont déversés dans 4 bassins sanitaires. 4 bassins de sanitaires ont 4 types de plantes différentes, telles que les plantes canado, le bambou d'eau, le papyrus et le jasmin d'eau qui servent à neutraliser les déchets restants afin que l'eau sorte de l'étang répondre aux normes de qualité. Cette installation est une première réplication après avoir été précédemment testée par l'Agence de recherche et de développement technologique. Cette agence de recherche et de développement peut également être effectuée par des fournisseurs de services, comme l'a déclaré Rezeki Parangin Angin, directrice du Centre des politiques et de l'application de la technologie au ministère des Travaux publics et du logement, après le transfert de la gestion de l'usine de traitement des eaux et de traitement des eaux usées au gouvernement de Samosir. Non seulement les bâtiments physiques, les aspects opérationnels et d'entretien sont également préparés en socialisant la technologie au gouvernement local. Le résident Samosir, Rapidin Simbolon, qui a assisté à l'événement, a exprimé sa satisfaction pour la construction de l'installation et prête à prendre soin de lui. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter l'une des destinations touristiques à Malang, Java Est. Restez à l'écoute. Malang ne finit jamais d'offrir sa beauté naturelle. Certaines destinations touristiques à Malang sont très intéressantes à visiter, principalement des objets de tourisme cachés. Il y a l'un des objets touristiques cachés qui est visible d'être visité et dont on l'a parlé souvent. L'objet touristique s'appelle Bedengan Malang, un objet touristique qui a un concept de terrain de camping. Serviteurs, si vous êtes amoureux de la nature, Bedengan Malang est un endroit approprié pour vous. Comme terrain de camping, l'endroit a des nuances qui sont encore naturelles. Il y a beaucoup d'arbres ombragés et grands. La rivière qui coule dans la région est si claire et fraîche. Selon les habitants, son nom provient de la cascade de Brou. La zone assez large permet aux touristes d'installer une tente librement. Avant d'être une destination touristique à Malang, Bedengan était une zone utilisée comme pépinière. Les habitants l'appelaient Bedengan, ainsi cette destination touristique est appelée Bedengan Malang. Ces plantes qui sont plantées sont entre autres des orangers. Ainsi, dans cette destination touristique, les touristes peuvent ramasser directement les oranges des arbres. Il y a deux types d'oranges qui peuvent être choisies. Les oranges qui ont été ramassées peuvent être dégustées sur place ou ramenées à la maison. Bien que la destination touristique de Bedengan Malang soit toujours naturelle, les installations telles que le parking, la mosquée et la salle de repos ont été fournies. Bien que ces installations soient toujours simples, il suffit d'aider les visiteurs. Bedengan Malang est situé au hameau de Selokerto, le village de Selorejo, le district de Dau, dans la région de Malang. Si vous partez de la ville de Malang, vous pouvez atteindre la distance d'environ 25 km. Vous devez passer la rue Joyo Agung jusqu'à Selokerto. En arrivant à Bedengan Malang, vous ne payez que 5000 rupiah par personne. Pour les frais de stationnement, vous devrez payer 2500 rupiah pour la moto et 5000 rupiah pour la voiture. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui avec le titre Bedengan à Malang en province de Java Est. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie est l'agent pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est le TAC Hotel. Je répète, le TAC Hotel, ou en français, l'emplacement de l'hôtel. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation entre Tony et le chauffeur de taxi. Je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Tony: Pak, apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara? Pak, apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara? En français: Monsieur, est-ce que c'est loin d'ici à l'Hôtel Mutiara? Le chauffeur de taxi: Ya, lumayan. Ya, lumayan. En français: Oui, assez loin. Tony: Berapa kilometer? Berapa kilometer? En français: Combien de kilomètres? Le chauffeur de taxi: Sekitar 12 kilometer. Sekitar 12 kilometer. En français: Environ 12 kilomètres. Tony: Oh ya, apakah ada pasar tradisional di dekat Hotel Mutiara? Oh ya, apakah ada pasar tradisional di dekat Hotel Mutiara? En français: Est-ce qu'il y a de marché traditionnel près de l'Hotel Mutiara? Le chauffeur de taxi: Ada, Pak. Ada, Pak. En français: Oui, il y en a. Tony: Wah, berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? Wah, berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? En français: Eh bien, quelle est la distance entre l'hôtel et le marché traditionnel? Le chauffeur de taxi: Mungkin 1 atau 2 kilometer. Mungkin 1 atau 2 kilometer. En français: Peut-être 1 ou 2 kilometers. Tony: Oh, cukup dekat ya. Terima kasih, Pak. Oh, cukup dekat ya. Terima kasih, Pak. En français: Bon, assez proche, n'est-ce pas? Merci, monsieur. Le chauffeur: Ya, Pak, sama-sama. Ya, Pak, sama-sama. En français: Oui, monsieur, avec plaisir. Comme d'habitude, je vais présenter le vocabulaire et les expressions reliant à la conversation d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Jauh, jauh, en français, loin. Dekat, dekat, en français, proche. Cukup dekat, en français, assez proche. Di dekat Hotel Mutiara. Di dekat Hotel Mutiara. En français: C'est près de l'Hotel Mutiara. Apakah dari sini ke Hotel Mutiara jauh? Apakah dari sini ke Hotel Mutiara jauh? En français: Est-ce que d'ici à l'Hotel Mutiara loin? Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? En français: Quelle est la distance entre l'hôtel et le marché traditionnel? Berapa kilometer? Berapa kilometer? En français: Combien de kilomètres? Sekitar 12 kilometer. Sekitar 12 kilometer. En français: Environ 12 kilometers. Ya, lumayan. Ya, lumayan. En français: Oui, assez. Mungkin 1 atau 2 kilometer. mungkin 1 atau 2 kilometer. En français, peut-être 1 ou 2 kilomètres. Quand vous voulez savoir la distance entre deux places, utilisez le mot berapa. Vous pouvez utiliser le modèle berapa jarak antara tempat yang satu dan tempat kedua. Je répète, berapa jarak antara tempat yang satu dan tempat kedua. En français, quelle est la distance entre la place 1 et la place 2? Comme par exemple, berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? En français, quelle est la distance entre l'hôtel et le marché traditionnel? Tony, berapa jarak antara bandar udara dan hotel? Berapa jarak antara bandar udara dan hotel? En français, quelle est la distance entre l'aéroport et l'hôtel? Tony, berapa jarak antara bandar udara dan pasar tradisional? Berapa jarak antara bandar udara dan pasar tradisional? En français, quelle est la distance entre l'aéroport et le marché traditionnel? Pour répondre à une telle question, vous pouvez répondre en mentionnant la distance, comme par exemple, Tony, berapa jarak antara bandar udara dan hotel? Berapa jarak antara bandar udara dan hotel? En français, quelle est la distance entre l'aéroport et l'hôtel? Une femme, 12 kilomètres. 12 kilomètres. En français, 12 kilomètres. Tony, berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? En français, quelle est la distance entre l'hôtel et le marché traditionnel? Une femme, sekitar 1 atau 2 kilometer. Sekitar 1 atau 2 kilometer. En français, environ 1 ou 2 kilomètres. Vous pouvez ajouter le mot kira-kira, sekitar, ou lebih kurang, si vous n'êtes pas sûr avec la distance. Et ensuite, pour savoir plus ou près de la distance qui doit être prise, utilisez le mot apakah. Vous pouvez utiliser le modèle apakah jauh dari tempat yang satu ke tempat kedua? Apakah jauh dari tempat yang satu ke tempat kedua? Comme par exemple, Tony, apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara? Apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara? En français, est-ce que c'est loin d'ici à l'Hotel Mutiara? Apakah jauh dari bandar udara ke Hotel Mutiara? Apakah jauh dari bandar udara ke Hotel Mutiara? En français, est-ce que c'est loin de l'aéroport à l'Hotel Mutiara? Tony, apakah dekat dari bandar udara ke Hotel Mutiara? Apakah dekat dari bandar udara ke Hotel Mutiara? En français, est-ce que c'est près de l'aéroport à l'Hôtel Mutiara? Tony, apakah dekat dari sini ke pasar tradisional? Apakah dekat dari sini ke pasar tradisional? En français, est-ce que c'est près d'ici au marché traditionnel? Pour répondre à une telle question, vous pouvez y répondre selon votre estimation, comme dekat, si la distance est proche. Jauh, si la distance est éloignée. Et bien sûr, vous pouvez répondre tidak tahu si vous ne connaissez pas la distance. Les unités de distance qui sont souvent utilisées en Indonésie sont mètres et kilomètres. Les Indonésiens utilisent rarement les unités kaki ou mil. Si vous voulez décrire les distances, il est préférable d'utiliser des unités mètres ou kilomètres. Chers amis, veuillez répondre aux questions ci-dessous en soumettant d'abord vos solutions. Nama ou nom, negara asal Anda ou pays d'origine, alamat Anda ou adresse. Les réponses peuvent être envoyées à notre adresse email à voy@voynews.id. Je répète, voy@voynews.id. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Merci à tous et au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI, du Service mondial de la voix d'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, nous allons vous présenter les chansons de Maudie Ayunda. Pour commencer notre rencontre d'aujourd'hui, je vous présente une chanson intitulée « Perahu Kertas » ou en français « Bateau de papier ». Bonne écoute.
Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup. Cari-cari tambatan hati, kau sahabatku sendiri. Hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua bahagia, kau telah terlepas.
Chers auditeurs, voilà la chanson intitulée Prahu Kertas, chantée par Maudy Ayunda. Avant d'être chanteuse, Maudy Ayunda est également actrice. Elle a commencé sa carrière en jouant un rôle dans le film intitulé Untuk Rena ou Pour Rena en 2005. Grâce à ce film, elle a reçu le titre de la meilleure actrice principale au Festival du film indonésien en 2006. Puis dans le film intitulé Prahu Kertas qui est sorti en 2012, Maudy Ayunda montre son talent de jouer le rôle. En outre, elle a également chanté la chanson qui est aussi la bande sonore du film. Grâce à sa chanson intitulée Prahu Kertas ou Bateau de papier, elle est connue comme actrice et chanteuse. Bien qu'elle ait déjà commencé à sortir un album intitulé Panggil Aku ou Appelle-moi depuis 2011. Serviteur, je vous donne une chanson dans l'album intitulé Panggil Aku par Maudy Ayunda, dont le titre est Tiba-tiba Cinta Datang ou Soudain l'amour vient. Bonne écoute.
Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama.
Cinta,
di keramaian,
keramaian.
Serviteur, c'était l'autre chanson de Maudy Ayunda intitulée Tiba-tiba cinta datang. Elle a non seulement chanté la bande sonore du film Perahu Kertas, Maudy Ayunda a également sorti plusieurs singles et de nouveaux albums. Sa voix douce est vraiment préférée par des mélomanes indonésiens. Même, elle a été choisie pour remplir le son dans le film d'animation dans des enfants de la nation, dont le titre est Battle of Surabaya ou Bataille de Surabaya. Bien qu'elle ait beaucoup de succès en tant qu'artiste et chanteuse, Maudy Ayunda n'a pas quitté le monde de l'éducation. Depuis septembre 2013, elle a étudié au département de politique, philosophie et économie de l'université Oxford en Angleterre. Bon, serviteur, voilà l'édition du magazine musical sur Maudy Ayunda. Pour terminer notre rencontre, je vous donne des chansons dont le titre sont Cinta Datang Terlambat ou L'Amour Arrive Trop Tard et Jakarta Ramai. Bonne écoute et à demain.
Ku mengerti mengapa begini. Waktu dulu ku tak pernah merindu, tapi saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkan. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.